France Inter, le 7-9.
La revue de presse, Claude Askolovitch, bonjour. Et bonjour. Claude, on parle d'espionnage ce matin.
Et c'est une histoire fondamentale que pour l'instant nos journaux français ne traitent que rapidement sur leur site internet. Mais elle fait la une et une superbe enquête du Financial Times. Et hier, elle a déchiré le paysage de la technologie dans le Washington Post par un texte signé du patron de l'application de messagerie WhatsApp, Monsieur Will Cathcart. Que dit-il, Monsieur Cathcart? Que sa compagnie porte plainte contre une société israélienne, NSO, qui développe un logiciel d'espionnage Pegasus, tellement puissant que les autorités d'Israël le considèrent comme une arme. Pegasus officiellement est vendu à des gouvernements pour lutter contre le crime, mais en fait pas seulement. WhatsApp s'est rendu compte, dans une enquête interne, que Pegasus avait servi à espionner des opposants politiques, des militants des droits de l'homme, et ses utilisateurs s'étaient servis d'une faille de sécurité de WhatsApp, d'où la plainte en justice. WhatsApp affirme que NSO est responsable de l'utilisation que l'on fait de son logiciel, que NSO ne devrait pas exploiter les failles techniques des autres entreprises. WhatsApp en appelle à un moratoire sur les logiciels espions. WhatsApp demande aux États de protéger les utilisateurs des messageries sur smartphone, car ces engins sont les ordinateurs portables auxquels nous confions notre existence. C'est donc, je le rappelle en anglais, dans le Washington Post et le Financial Times, une histoire passionnante pour trois raisons. D'abord, elle s'inscrit dans la crise de confiance que génèrent les technologies, et voilà un géant controversé qui se repositionne en défenseur des citoyens ordinaires, savoureux puisque WhatsApp appartient à Facebook, qu'on a connu, disons, léger. Ensuite, on redécouvre la puissance magique de la technologie. Pegasus, le logiciel, pouvait infiltrer un smartphone visé à partir d'un simple appel WhatsApp, sans même que la victime ait besoin de répondre, et ce n'est pas le moindre exploit de ses inventeurs. Lisez le Financial Times. Et lisant le Financial Times, vous découvrirez aussi, et ce n'est pas le moins émouvant, les victimes de cet espionnage, une centaine de militants qui sont un peu de l'honneur de la planète. Ce sont souvent des Africains, des opposants au gouvernement du Rwanda qui vivent en Belgique ou au Royaume-Uni, qui sont menacés de mort par leur gouvernement. Un jour, leur téléphone a sonné. Quelles conséquences pour eux, pour leurs amis? Ces militants ont l'air bien loin de nos vies tranquilles et de nos petits problèmes. Hier, c'est assez drôle, sur le site Presse Citron, spécialisé dans les technologies, et sur celui du magazine GQ, on se réjouissait que WhatsApp ait résolu un de ses plus grands problèmes. Vous ne serez plus, mes amis, importunés par les notifications de conversations que vous avez mises en sourdine. Les espions et Pegasus, eux, ne notifient rien dans un monde où il faut se méfier. À propos de méfiance, voilà ce que je lis sur le site d'Alternative Économique et dans l'excellent magazine Pour l'Écho. Il y a un an, en octobre 2018, le Canada a légalisé la vente de cannabis, mais pourtant, le marché noir résiste. 40% des Canadiens préfèrent acheter toujours leur herbe chez leur dealer favori, parce qu'on le connaît, c'est devenu un copain, on est sûr de la qualité de son herbe, il est moins cher, et vous avez envie de croiser votre patron au bureau de cannabis, et au fait, êtes-vous sûr que dans les boutiques officielles, l'État ne va pas vous ficher ? En France, me dit la Dépêche, chez nous, donc à Colomiers, un père et son fils, lui quinquagénaire, le fils à peine majeur, ont été arrêtés. Ils avaient planté et récolté 22 kilos d'herbe et espéraient faire une culbute de 80 000 euros. Ils ont été repérés par un hélicoptère de la gendarmerie, bien loin du Canada. On surtaxe en France l'essence et les cigarettes, me dit le Figaro. L'État à ces taxes est accro.
Et on parle de chauffeurs de bus.
Qui travaillent dans l'agglomération de Rouen pour la compagnie TCR, et ils n'ont pas eu le choix le jour où l'usine Lubrizol a brûlé. Le Canard Enchaîné me dit qu'ils ont été forcés de conduire leur bus dans la fumée toxique. On avait mis des masques dans les bus. Ils conduisaient des engins vides en traversant le nuage. Ce sont surtout des jeunes chauffeurs, pas titularisés, qui n'ont pas osé ne pas prendre le volant. Ces chauffeurs témoignent dans le Canard. Anonymement, ils n'osent pas chez leur médecin demander des arrêts de travail, même s'ils toussent encore, ça la fout mal, disent-ils, pour la direction. Coïncidence qui n'en est pas une, ce sont encore des jeunes et des précaires qui vont pâtir du changement des règles de l'assurance chômage qui entre en vigueur après-demain 1er novembre. C'est très bien expliqué par Le Parisien, par La Voix du Nord et par Mediapart dans une longue enquête. Mediapart qui me dit que des agences Pôle emploi songent à recruter des vigiles pour se prémunir des mouvements d'humeur des chômeurs qui découvriront dans quelques semaines les effets d'une réforme. Il faut lire ceci, mais lire également que le chômage baisse, à Roubaix notamment, me dit La Voix du Nord encore, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien non plus de lire dans Les Échos que nos entreprises résistent mieux, les défaillances sont à leur plus bas niveau depuis 2007, le travail finalement serait là.
Et un dragon pour finir, Claude.
Dont parle encore La Voix du Nord et Nord Littoral, un dragon, automate géant sublime, inventé pour faire de Calais une ville de tourisme, et qui sera à Calais ce week-end, les restaurants se préparent, la joie reviendra-t-elle? Mais Nord Littoral ne fait fait pas sa une sur le Dragon, peut-être demain, mais sur les malheurs d'une enseigne de chaussures Chausse-Calais qui serait menacée. On ne peut pas si facilement se contenter de rêver, mais il faut bien quand même. La Provence me fait saliver d'une exposition sur Jean Giono, écrivain de sa région qui chantait si bien sa terre, mais pendant la guerre la chanta en mauvaise compagnie dans le journal Collabo, La Gerbe, lui en veut-on. En Allemagne, on se déprend de l'amour qu'on éprouvait pour le peintre Nolde, Émile Nolde, artiste national mais dont le passé nazi est revenu à la surface et Madame Merkel a retiré de son bureau les tableaux de Nolde qui le décoraient. La France, me dit le Figaro, est le plus beau pays du monde, la preuve par le guide du Routard qui sort un guide événement, Voyage France qui ne parle que de nous. Mais si nous sommes beaux, j'en termine, le Mexique n'est pas mal non plus. Et juste avant la Toussaint, allez lire Télérama et découvrir donc José Guadalupe Posada, qui il y a plus d'un siècle gravait des squelettes souriant, riant, grimaçant, dansant, qui illustrait des gazettes à trois sous et forgeait l'imaginaire d'un pays où les cadavres, les cabaleras font partie de la vie. André Breton le célébra, on le rencontre à nouveau. Allez guincher avec cette chouette femme du monde tout en os, coiffée d'un chic chapeau.
Merci Claude Askolovitch.